On est de retour. Bon midi. Bienvenue dans l'émission Trudeau-Landry. Vous êtes au FM 93 jusqu'à 14h. Jérôme Landry avec Jonathan Trudeau. Salut, Jonathan.
Hello.
Nicolas Lacroix qui est là aussi avec nous. Salut, Nico. Alexandre Tétrault aussi à la mise en onde. 25-226 par texto pour nous joindre. 670-9330. C'est très, très gris actuellement sur Québec. 9 degrés seulement. On a un maximum à 11 degrés pour cet après-midi. Puis demain puis jeudi, là, c'est pas des belles journées. Une chance que les Canadiens gagnent. Quoi qu'à Québec, écoute, des fois, c'est pas toujours un gage de bonheur nécessairement. Il y a quand même beaucoup de partisans du Canadien. Mais bref, demain, mercredi, 10 degrés le maximum, 100 % de probabilité. Fait qu'on y échappera pas. 70 % de probabilité jeudi avec 11 degrés. Et ensuite, vendredi, on devrait voir un petit peu le soleil vendredi avec une espèce d'alternance soleil et nuages maximum à 14. Et samedi, pour l'instant, c'est des nuages avec 13 degrés. Mais je vous le rappelle, demain et jeudi, ça va être des journées à oublier. Mais ça va peut-être faire verdir un petit peu le gazon, aider un petit peu les pelouses. Ou en tout cas, on va essayer de trouver un peu de positif là-dedans. Faut jaser un petit peu de politique municipale ce midi. Beaucoup de sujets. Je vais commencer, je pense, par l'avenir du maire Labeaume. Je lisais la chronique ce matin de notre collègue Karine Gagnon dans le Journal de Québec. En gros, ce qu'elle dit, c'est faudrait que le maire annonce ses intentions. Faudrait que le maire Labeaume annonce ses couleurs par respect, entre autres, pour les citoyens. On comprend qu'il y a un petit peu de stratégie là-dedans. Là, tu sais, ça peut peut-être nuire à la préparation des oppositions, des différents candidats à la mairie qui veulent se présenter contre lui, mais... Je vais vous réitérer que moi, je pense que le maire va se représenter là. Puis on a beaucoup focusé sur le dossier du tramway. On a beaucoup dit ah, si le tramway se règle, il se représentera pas. Mais pensez à ça deux secondes. Pensez-vous vraiment que le maire comme ça va dire ok, moi je me présente pas sans avoir un dauphin qui va un peu prendre sa relève, surtout au moment où il y a un projet important qui va être démarré, le projet de tramway, le projet de réseau de transport structurant. Pensez à ça deux secondes. Moi, je pense que c'est un élément important dans cette histoire-là. Moi, regarde, je peux me tromper, je suis pas dans sa tête, puis il est pas impossible qu'il change d'idée, mais moi, je suis à peu près certain que le maire Labeaume va représenter sa candidature à la mairie de Québec. Est-ce qu'il a l'intention de faire ça en 4 ans? Ça, c'est peut-être une autre histoire, par contre, là. Est-ce qu'il va se présenter puis à un moment donné dire, oh, regarde, m'aurait tiré après 2 ans, après 3 ans? Mais le fait que le maire n'ait pas identifié de dauphin, c'est quand même un point important dans l'histoire. De dire j'abandonne complètement mon parti, puis on s'en va, puis ce sera n'importe qui de mon parti qui va représenter la suite d'équipe Labeaume, si vous voulez. Moi, je pense que c'est quelque chose qui favoriserait beaucoup peut-être l'élection de Bruno Marchand ou peut-être même de Jean-François Gosselin là, ou de Jean Rousseau ou je sais pas qui va se présenter exactement à la mairie. Le fait qu'il n'y ait pas de dauphin identifié me laisse beaucoup croire que le maire va se représenter encore.
C'est ça.
Je pense qu'il aurait aimé d'en avoir un ou une, par contre.
Mais en même temps, s'il identifiait un dauphin ou une dauphine qui n'a pas nécessairement une notoriété très grande, je pense que juste sur les bases, les assises de son parti, de la continuité, ça pourrait favoriser un peu cette personne-là, là, t'sais, si tant est qu'elle est le moindrement compétente du monde. Et... En même temps, on sait que les élus ont tendance à penser qu'après eux, le déluge, là. C'est-à-dire, ils trouveront jamais quelqu'un d'assez compétent pour les remplacer. Puis, mais là, le contexte est particulier pour Régis Labeaume, justement à cause des dossiers, des poils qui sont sur le rond, là.
T'sais, ben, c'est ça.
Il y a beaucoup de choses sur le feu. Donc, j'ai l'impression, tu sais, l'espèce d'hybride, c'est-à-dire entre se représenter pour 4 ans ou pas se représenter, l'espèce d'hybride de dire je vais me représenter, mais m'en faire la moitié du mandat, sans nécessairement le dire, ton hypothèse me semble être assez crédible.
Moi, je pense qu'on s'en va vers ça, puis je vous le dis, ça peut changer. Il est encore relativement tôt, mais moi, je connais assez le maire aussi pour vous dire que si, par exemple, il y avait eu une Julie Lemieux, OK? Ancienne journaliste du Soleil. L'ancienne conseillère qui était au comité exécutif. Elle, là, je vous annonce qu'elle avait le profil là, pour remplacer le maire à la tête d'équipe La Bombe, qui se serait peut-être appelée équipe Lemieux, mais comprenez qu'il y aura une suite à équipe La Bombe, ouais. Même si le maire n'est pas là. On va changer le nom du parti, mais il y aura une suite à cette formation politique-là, à cette mentalité-là de façon de gérer la ville aussi. Je pense que s'il y avait eu une J. Lemieux, je pense que le maire aurait peut-être dit « OK, parfait, je pense que la ville va être en bonne main, donc je vais quitter. » Est-ce que si l'avocate, Mme Farman, Olga Farman, l'avocate de Norton Rose, avait dit « OK, parfait, j'y vais, je vais prendre en charge équipe La Bombe, je vais prendre les rênes de ce parti-là. » Peut-être que le maire aurait décidé. Est-ce qu'une Marie-Josée Savard aurait pu prendre la relève? Je suis pas sûr que ça l'intéresse, mais je pense qu'elle avait le profil. Elle avait le profil pour peut-être assurer la suite de ça, d'équipe La Bombe. Mais il y a personne là-dedans qui semble intéressé. Et tout ça, ça me fait dire que je pense que le maire s'amuse un peu avec ses adversaires. Mais je le vois très, très mal nous annoncer, mettons, dans deux semaines, qu'il se représentera pas. Puis en laissant le néant un peu derrière lui, là. En laissant comme ça le parti équipe La Bombe, sans trop de direction et sans un leader ou une leader claire.
Ouais, parce qu'il aurait pu à la limite, puis je sais pas si ça a déjà été fait, là, peut-être qu'éventuellement on apprendra qu'il y a eu des approches en ce sens-là, mais je regarde le profil de Bruno Marchand.
Ouais.
À date, c'est quelques idées qu'il a mis de l'avant sur la place publique. J'ai pas l'impression que ses visions sont diamétralement opposées à celles de Régis Labeaume.
Moi, je pensais que c'était peut-être lui son dauphin.
Ben, mais c'est ça, mais clairement, c'est pas le cas. Non. Est-ce qu'on pourrait être surpris? Ben, j'ai l'impression que la cause est entendue. Régis Labeaume va se représenter. En même temps, je sais qu'il y a des gens qui gravitent autour de l'hôtel de ville qui disent on regarde juste des fois la façon dont le maire se comporte, son équipe, comment ça se passe dans la gestion de la ville. Et certains trouvent qu'il y a des espèces d'odeurs de fin de régime, là. Des réflexes aussi de fin de régime, mais ça veut pas dire qu'il
ne
va pas
là.
Se pincer le nez, se boucher le nez et dire « OK, moi, retourner 4 ans ».
Parce que oui, il est en fin de régime. Ça, écoute, il est là depuis 2007. Là. Tout le monde comprend qu'il y en a beaucoup moins à faire que ce qu'il en a fait à date là, comme maire de Québec. Écoute, il a été maire de Québec, ça se chevauche sur 3 décennies. Là. C'est quand même quelque chose. Puis ça, c'est clair que c'est pas, il y en a pas pour très, très longtemps. Mais qui nous annonce dans les prochaines semaines qu'il ne se représente pas, avec un peu le vide et le néant derrière lui, je serais très, très surpris qu'on en arrive là, parce que je vois pas vraiment qui, au sein d'équipe La Bombe, si c'est pas les noms que je vous ai nommés, là, puis je le dis en tout respect pour les gens qui travaillent dans cette équipe-là, je vois pas qui a la stature, je vois pas qui aurait la carrure et le leadership pour prendre le flambeau d'équipe La Bombe. Présentement, je le vois pas. Ça peut peut-être changer. Il y a peut-être quelqu'un qui va apparaître prochainement. Mais non, j'ai des gros doutes là-dessus. L'autre affaire qui retient l'attention pas mal depuis hier, c'est le 122 millions de surplus dans les coffres de la Ville de Québec. C'est un surplus record. Écoute, je me souviens pas d'avoir vu ça, là. Ça fait quand même plusieurs années que je m'intéresse aux dossiers municipaux et à la politique municipale. 122 millions de surplus dans les coffres de la ville, même avec la pandémie. On va entendre ce que le maire La Bombe avait à dire là-dessus, comment il explique ça, parce que tout le monde a été un peu surpris de voir ce chiffre-là. On est tellement habitué au déficit, puis à s'endetter, puis au gouvernement, surtout en temps de pandémie. On écoute ce que le maire avait à dire.
Et quand vous regardez tout ça, les revenus, oui, l'activité immobilière nous a pris par surprise. On a vendu des terrains aussi, puis il y a eu des mutations. Alors, l'activité immobilière nous a surprise, mais quand vous regardez au niveau des revenus, si vous enlevez ce que le gouvernement nous a envoyé, les revenus, ils ont augmenté de moins de 1%. Là où ça se passe, c'est surtout sur les dépenses, où là, les dépenses ont baissé de 4%. Alors, la grosse différence est là. Puis pourquoi les dépenses ont baissé de 4%? C'est parce qu'on a fait des choix budgétaires. En même temps, la pandémie et le confinement a fait qu'il y a des dépenses qu'on n'a pas dû faire. Alors, on était extrêmement prudent.
Donc, la question, c'est on fait quoi avec ça, le 122 millions? Je comprends bien que lui, il va être prudent avec ça. Il l'a dit. Là. Je pense que, tu sais, on y a été questionné hier sur est-ce qu'on va baisser les taxes? Est-ce qu'on va geler les taxes? Moi, je pense personnellement que cet argent-là devrait retourner aux commerçants. Moi, je pense que... Bon, parlez pour moi, là. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont la même perception. Mais comme payeur de taxes municipales à la Ville de Québec, avec un compte de taxes, avec une propriété sur le territoire, puis je regarde mon compte de taxes, oui, j'aimerais ça en payer moins, Mais tu sais, je regarde ce qui s'est passé dans la dernière année. T'sais, j'ai ma job. J'ai perdu un peu de revenus, mais rien de dramatique. Parce qu'à un moment donné, j'ai été entre deux jobs. Mais tu sais, à Québec, il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent pour l'État. Il y a des gens qui travaillent dans les compagnies d'assurance, des gens qui travaillent dans les hôpitaux, l'université. Tu sais, c'est les gros employeurs à Québec, les banques. Je pense que pour nous autres, les citoyens, puis je dis pas qu'il y a personne qui a écopé, mais pour nous autres, les citoyens, la pandémie me semble avoir été peut-être au niveau financier, en général, là, je parle en général, généralisons un peu, des fois ça fait du bien, ça semble avoir été moins tough que pour les commerçants. Puis oui, encore là, il y a des commerçants qui nous ont arraché beaucoup. Là. Il y a des commerçants pour qui ça a été pénible, il y en a pour certains que ça a été le clou dans le cercueil. Il y en a qui ont traversé des périodes extrêmement difficiles, qui vivent encore des périodes très difficiles. Mais je connais aussi des commerçants pour qui ça a été plus payant. Là. Il y a des places de take-out, Joe, là. Des certains restaurants à Québec là, où ça roule en tabarnouche. Là.
Ah oui.
Moins d'employés à payer. T'as des commandes à très, très haut volume à certains soirs de la semaine. Mais en général, je pense que les commerçants l'ont eu très, très tough. Et moi, comme citoyen, je me dis, OK, je demanderai pas un break de taxes ou une baisse de taxes pour les résidences. Mais je pense qu'il faudrait trouver une formule pour redonner cet argent-là aux commerçants. Sais-tu en donnant 5-10 000 à chaque commerçant? Sais-tu en créant une espèce de programme basé là-dessus où il y aurait peut-être une sélection des commerçants qui en ont arraché le plus? Mais moi, comme gars de Québec, comme payeur de taxes à Québec, là, j'ai le goût de voir ces 122 millions-là dans les poches de nos amis restaurateurs, dans les poches de nos amis commerçants, les commerçants de la rue Saint-Jean, Hey, j'étais allé dans le Vieux-Québec en fin de semaine, Joe, le dimanche, là. C'est triste en tabarnouche, là. J'ai jamais vu ça de ma vie, là. Je pensais jamais voir ça de ma vie, autant de commerces fermés, puis je dis fermé, pas temporairement, là, avec des panneaux de venir dans la fenêtre, puis tu vois qu'il y aura plus rien qui va se passer là. Ça me fait de la peine. Et comme citoyen, je vous dis pas que j'aimerais pas ça, moi aussi, avoir un brique de taxes, mais j'aimerais ça qu'on fasse et qu'on aide les commerçants avec ça. Je pense pas que ça va arriver, par contre.
Les commerçants, puis j'ai même envie de te parler aussi des locataires, des propriétaires, par exemple, de centres commerciaux ou des meubles qui, eux, ont dû être très, très, très tolérants. Pis c'est correct, là. Je pense que c'était souhaitable avec, par exemple, des locataires qui n'étaient pas capables de payer leur beau, mais qui, eux aussi, ont des investissements là, à rentabiliser, mais à rembourser, qui l'ont pas eu facile, là. Tu sais, des grands propriétaires comme la famille Trudel et tout ça, il y a pas grand monde qui se sont tournés vers eux pour leur donner un coup de main.
Non.
Moi, je dis pas qu'il faut absolument qu'on prenne le 122 millions, Jérôme, puis que on le dépense demain matin là, jusqu'à la dernière scène. Mais est-ce qu'on peut regarder, sonder les commerçants et voir est-ce qu'il y a des besoins qui ont pas été comblés par les programmes? Parce que je sais que les programmes, si on pense aux restaurateurs, puis on donne souvent l'exemple des restaurateurs, mais il y a pas uniquement qu'eux. Il y a des commerces qui vendent toutes sortes de choses aussi qui peuvent l'avoir eu difficile. Il y en a qui vont dire que les programmes du fédéral et du provincial les ont beaucoup aidés pour les frais fixes.
Surtout le fédéral.
La subvention salariale.
Le fédéral a été très généreux.
Mais regardons les commerçants là, qui ont des taxes municipales à payer, etc. Est-ce qu'il y a des besoins qui serait à combler, puis effectivement, de voir si on peut pas profiter de, j'ai envie de dire, de cette manne-là, là, à 122 millions. D'ailleurs, je me souviens d'une conférence de presse que l'Union des municipalités du Québec faisait au printemps passé, où on disait que c'était épouvantable les charges supplémentaires que les villes avaient à assumer sur notamment la gestion des déchets, le transport en commun qui était plus rentable. Je suis quand même surpris, là. Tu sais, on parle déjà de ce qu'on devrait faire avec le 122 millions. À la base, je suis quand même surpris qu'on ait dégagé un surplus de 122 millions.
Bien, c'est très surprenant. C'est ça. Puis, tu sais, je pense aux hôteliers, entre autres. Les hôteliers, eux autres, là, on va dire de quoi, là. Eux autres, ils en ont arraché pas à peu près, là.
Oui.
Tu sais, puis, on pense. Tu sais, quand on pense aux hôtels à Québec, on pense au Château Frontenac, le Hilton, puis le Concorde, puis le Delta, puis etc. Mais les petits hôteliers aussi, là. Il y a des petits propriétaires d'hôtels qui sont en train de manger leurs économies de retraite là pour essayer de payer leurs taxes municipales justement. Tu sais, puis je sais pas c'est quoi la formule. Tu sais, je peux pas dire que j'ai la formule parfaite et précise dans ma tête. Mais pour moi c'est clair. Pour moi il est clair que cet argent là doit retourner dans les poches des commerçants pour essayer de leur redonner une swing un peu pour essayer de repartir parce qu'on s'entend que l'enfer est pas terminé non plus là pour les commerçants. Tu sais l'été passé là parce que là on est optimiste hein, l'été s'en vient puis tout ça. Mais l'été passé, là, le tourisme, là, ça se passait pas mal plus en Gaspésie qu'à Québec. Là. Moi, il n'y a rien qui me dit que l'été va être très, très facile à Québec. Là. Il n'y a rien qui me dit que les hôteliers, oui, ils vont avoir un meilleur taux d'occupation, mais il n'y a rien qui me dit que les hôteliers et les restaurants vont rattraper le terrain qui a été perdu, puis l'argent qui a été perdu au cours de la dernière année et demie. Hey, on va changer un peu de sujet, quoique un lien aussi avec l'actualité municipale, puis il a été question de ça au conseil de ville hier. C'est concernant l'Aube-Rivière. L'Aube-Rivière qui a déménagé. Évidemment, c'est cet endroit où des gens qui sont sans domicile vont chercher un repas, vont chercher un toit aussi. Depuis le 6 mars dernier, l'Aube-Rivière a quitté ses locaux de la rue Saint-Paul pour emménager dans un édifice qui est flambant neuf. C'est en face du YMCA sur la rue Dupont, dans le quartier Saint-Roch à Québec. Gros projet, 32,5 millions de dollars. Sauf que là, apparemment, qu'il y a des commerçants. Puis on va en entendre un qui était au conseil de ville hier, qui se plaignent de toutes sortes de comportements de la part des personnes qui sont sans abri. Des gens qui disent que tous les jours, dans leur cour intérieure, ils retrouvent des canettes vides, des pépages, ce genre d'affaires-là.
Mais c'est pas un beau portrait, là.
C'est pas un beau portrait qui est dressé. Des gens qui viennent déféquer dans nos installations de chauffage. Et on va écouter un des commerçants qui s'est présenté hier au conseil de ville.
On constate de plus en plus que la police est dépassée malgré les bonnes intentions. J'insiste, on ne parle pas de niaiseries comme du flanage, la consommation de drogue, alcool ou encore le dépotoir que le secteur est de. Je parle ici de vandalisme, de vol et d'intimidation. C'est une situation de bombe à retardement si la ville ne fait rien rapidement. Ça va exploser. Ce n'est pas une menace, c'est un simple constat. Par parenthèse, il y a eu un coup de pelle qui a été donné la semaine passée, juste pour vous expliquer un peu. Donc, ma question, il y a une proposition du DG de l'Aube-Rivière, M. Boulay. La personne la plus crédible dans le domaine, ça prendrait des investissements pour des travailleurs de rue pour couvrir le secteur 24 heures sur 24. Est-ce que c'est envisageable?
On va également écouter la réaction du maire Labombe, je pense, avait raison aussi sur cet aspect-là.
Écoutez, on fait tout ce qu'on peut. Une chose est sûre, il y a des itinérants à Québec. On ne peut pas les mettre dans un camion et aller les porter aux portes de la ville. L'Aube-Rivière a un bâtiment neuf. On est en COVID. Tout le monde est affecté par ça. Je veux dire à tous ceux ici qui habitent autour de l'Aube-Rivière qu'on comprend très bien leurs problèmes. On doit servir, aider ces gens-là qui sont dans la rue. Alors, c'est pas le Saint-Roch d'antan. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. On travaille sur des solutions. On tente de bien comprendre le problème. Je pense qu'on le comprend bien. Les solutions ne sont pas simples.
On va essayer de mettre tout ça au clair, Jonathan, avec le directeur général de l'Aube-Rivière, M. Éric Boulay. Salut, Éric.
Bonjour, Jérôme. Bonjour, Jonathan.
Bon, Éric, peut-être nous expliquer un peu le contexte. Comment ça va, là, le déménagement? Comment ça s'est passé à tes yeux, le transfert de l'ancien site au nouveau site sur la rue du Pont?
D'abord, parlons de l'intérieur de nos murs, là. Écoutez, oui. Là, on a la même programmation qu'on avait au 401 Saint-Paul, hein. C'est les mêmes intervenants, les mêmes services, puis on sort encore des centaines de personnes de la rue à chaque semaine, à chaque mois. Fait qu'à l'intérieur, ça va bien. La différence, c'est qu'on a une nouvelle coquille qui est plus aidante, là. Les gens sont dans des chambres seules, les douches sont uniques, c'est plus des douches de joueurs de hockey, là, où tout le monde se voit tout nu, là. Fait qu'écoute, pour la dignité des gens qu'on accueille, ça paraît, puis le tremplin de réinsertion est plus grand. Puis là, je veux rassurer les gens, c'est un projet qui a coûté des sous, certes, là, mais c'était des programmes qui existaient gouvernementaux. Nous, on n'a pas plus d'argent pour repérer, là. Une chance que les gens sont là, puis on a les dons du public, parce qu'on serait pas capable. Fait que le service aux gens va bien. Bon. Maintenant, moi, c'est pas d'hier que je dis que l'itinérance augmente à Québec, puis que c'est de plus en plus visible. En 2019, on a fait des sorties là-dessus, hein. Même à l'ancien, au 401 Saint-Paul, de dire que là, dans la rue, parce que nous, on intervient dans nos murs, et non pas en dehors de nos murs, dans la rue, il y a des gens qui sont plus durs à rejoindre. T'sais, si 50% des gens, après une seule fois l'Aube-Rivière, se remettent sur pied, t'as 8 à 10% de gens plus chroniques qui ont besoin de soins plus spécialisés. L'Aube-Rivière, on est un refuge qui héberge, qui donne à nourrir, qui ont des programmes de réinsertion, mais j'ai pas d'injection antipsychotique, j'ai pas de salle de rétention, puis j'ai pas... Comprenez-vous ce que je veux dire?
Ben oui.
Alors là, c'est sûr que les voisins où on était, ils étaient plus habitués, mais ils trouvaient ça dur pareil au 401. Ouais. Je dois vous le dire, là. Je parlais ce matin avec une dame, là, pour vous dire, trouviez-vous ça dur? Elle dit oui. Pour aller couler.
Ouais, ben oui.
Alors, on est à deux rues de l'ancien endroit. Fait que c'est sûr qu'en arrivant dans le nouvel endroit, mais les gens qu'on n'arrive pas à aider sont plus dérangeants. C'est sûr, tu sais. Puis là, si tu me le permets, Jérôme, je sais que je parle beaucoup, mais je veux juste faire une nuance, tu sais. Il y a une différence entre déplaisant, est confrontant, dérangeant et violent. Bon, l'itinérance, exact. C'est déplaisant à voir, c'est confrontant à voir, mais là, il faut s'ouvrir les yeux, c'était déjà là, c'est juste plus visible depuis 2019, parce que ça augmente. T'sais. Là, il y a de l'éducation peut-être à faire auprès des gens. Maintenant, est-ce que c'est dérangeant? Oui, c'est dérangeant. Moi, je suis d'accord avec les citoyens. Ouais. Si mon petit gars serait en ville, là, puis il dormirait pas de la nuit d'entendre crier un usager... Fait que moi, je suis d'accord avec eux. Il y a un bout où ça n'a pas de bon sens, tu sais. Et là, moi, je pense que les travailleurs de rue peuvent accompagner peut-être ces gens-là, faire l'éducation sociale, mais il y a certains qui auront besoin d'être peut-être soignés dans des services plus spécialisés, etc., etc. Mm. Maintenant, est-ce que c'est dangereux? Non, ils sont pas dangereux. Les itinérants, ils sautent pas sur personne pour les attaquer, là. Moi, j'ai rarement vu ça, en tout cas. Honnêtement, là, le sentiment d'insécurité est là, ça, c'est certain.
Mais donc, Éric, tu parles d'un déplacement, d'une réalité qui était déjà présente dans vos anciens locaux, mais est-ce qu'il y a eu une augmentation quand même? Là? Tu sais, on pense à la pandémie, bon, la détresse. Certains ont même parlé d'un phénomène de gens de Montréal qui viendraient vers Québec. Donc, oui, c'est une réalité qui existait, mais est-ce qu'elle est augmentée en plus de s'être déplacée?
Ben, l'itinérance augmente d'année en année à Québec. Paradoxalement, même si on met plus de gens sur pied qu'avant, la ville grandit, le nombre de gens à risque augmente, fait que le nombre de gens qu'on échappe augmente aussi au travers, tu sais. Je n'ai pas entendu dire que les gens arrivaient de Montréal. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on draine tout l'est du Québec, ouais. Gaspésie, Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, des gens qui viennent des plus petits centres vers les grands centres, chercher l'anonymat, mais chercher les services aussi. C'est sûr qu'on est mieux adapté. Alors moi, tu sais, à la question est-ce que c'est trop confortable pour les gens, mettons, parce que c'est neuf, là, ben tant qu'à ça, enlevons les oreillers, ils vont être moins confortables. Oui, ça n'a pas de sens.
Non, c'est ça.
T'sais, moi, je pense que plus les gens sont accueillis et plus ils sont bien, plus on peut créer un lien de confiance. Puis c'est avec ce lien-là qu'on a un tremplin. Moi, je vois pas une augmentation en flèche. Par contre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans la rue qui sont laissés à eux-mêmes.
Mais, tu sais, sur l'aspect particulier de la pandémie, là, ça a été quoi l'effet, Éric? Parce que, tu sais, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que vous vous retrouvez déjà, disons, en sous-capacité? Est-ce que déjà le nouveau projet te démontre que finalement, ça prendrait peut-être encore plus de ressources? Comment tu peux mesurer tout ça, là?
Ben, ça dépend, là, des ressources où puis comment. Moi, là, j'opère plus de lits. Ma bâtisse n'est pas à pleine capacité d'opération. Si je voudrais opérer, il me reste 30 lits à développer sur les 131. Là. Si je voudrais en opérer plus, j'aurais besoin de plus de programmes, plus de sous là, pour le faire, t'sais, parce que ça ne s'opère pas tout seul, les lits. Là. Maintenant, on déborde peut-être moins que les années précédentes, au contraire. Là. Parce que la coquille est plus performante. Là. Fait que ceux qu'on aide, on les aide.
Fait que c'est pas relié à un débordement, tout ça. Là. C'est pas relié à ça.
Ah, non, ben non. Mais il y a ça aussi. Les débordements étaient déjà là depuis belle lurette. Là, okay. Mais il n'y a pas un... Par contre, la pandémie, l'effet COVID, là, c'est que, tu sais, on sait que, par exemple, c'est pas la cause que je dis en 2019, mais ça amplifie beaucoup le problème. Une personne assessant l'itinérance, bon, il est pas. Le couvre-feu n'a pas d'effet sur lui dans le sens où il a le droit d'être dans la rue, mais bon, tu trouves une personne en situation d'itinérance un peu plus loin de l'eau rivière, ben là, c'est sûr que les policiers vont le déplacer les gens vers les ressources parce que on est là. Fait que les gens, peut-être qu'ils n'ont pas le goût nécessairement de venir dans nos ressources, mais sont comme prisonniers à être proches de nos ressources aussi. T'sais. Fait que ça vient amplifier quelque chose qui est déjà en place, là. L'autre affaire qui amplifie, c'est que d'habitude, Saint-Roch, ça foisonne de gens. Là. Quand il fait beau, les gens vont manger dehors. Là, les gens restent chez eux. Hein. Moi, je le sais, je suis au bureau tous les jours. Là. Puis, fait que c'est plus visible aussi, encore plus avec la COVID. T'sais. Quand il va y avoir plus de brouhaha, peut-être que ça va se noyer un peu. Mm-hmm. Dans le. Puis même chez mes gens, peut-être que les comportements vont être moins exacerbés. Là.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en termes d'encadrement, de soutien? Bon, parce qu'on comprend que les soins, les services sont bons, sont suffisants dans la mesure du possible à l'intérieur, le soir, la nuit. Mais tu sais, dans le jour, y a-t-il un modèle qui pourrait améliorer, je sais pas, des travailleurs sociaux qui sont dans la rue? Y a-t-il quelque chose à faire finalement? Parce qu'en même temps, autant moi je ne veux pas être insensible à la réalité de gens qui ont besoin d'aide et tout ça, autant que je peux comprendre qu'il y a des commerçants qui se disent, ouais, là, c'est une nouvelle réalité à laquelle on s'attendait pas, puis il y a quelque chose d'inconfortable là-dedans. Là.
Mais moi, je suis à la même place que toi là-dedans, vraiment. Bon, il y a deux choses. La solution n'est pas magique. Si j'avais une baguette magique, j'appellerais tout de suite à Paris ou Toronto pour lui dire, voici la gang, j'ai trouvé la solution. L'itinérance, j'aimerais bien dire, je sais que Paul de Raphaël, ce matin, il veut pas qu'on dise en amont, là.
Le terme
mais
en amont.
En amont, il y aurait des choses à faire. Tu sais, les gens qui arrivent, idéalement, l'oubli n'existerait pas. Ouais, c'est ça, je l'écoutais un matin, là. Ouais. J'essaie de pas choisir des mots trop, je dirais pas présentiel, là.
C'est ça, pas trop de mots technocrates, là.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas de solution magique, mais il y a un paquet de pistes de solutions qu'on peut mettre en place. Puis c'est drôle parce qu'on n'a pas attendu que les citoyens sortent pour travailler avec eux. On les a invités il y a deux semaines. J'ai jasé avec eux. Moi, dès qu'il y a un citoyen qui m'appelle, je prends 20 minutes personnellement pour jaser avec, lui dire de venir visiter ce qu'on fait, de se connaître. Oui, ça prendrait plus de travailleurs de rue. Il faut que, tu sais, en bon père de famille, là, ça prendrait des intervenants qui sont là puis qui je trouve que c'est un peu prétentieux de rééduquer les gens, là, mais être là avec les gens, dire, regarde quand tu cries. Moi, je le fais quand je vois dehors, là, prendre une pause. Je dis, regarde quand tu cries, les gens te regardent, ça marche pas, tu sais. Nous, on va développer un projet de brigade de rue, là. Tu sais, on a eu une subvention de la ville, là. C'est pas une grosse subvention, là. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que nos usagers soient des brigades de ménage de rue, là. Il y a ça à Montréal, le projet sac à dos, tapage. Puis ça a fait ses preuves, là. C'est que j'aurais 2 ou 3 usagers par jour, qu'on met un dossard, un balai. Ils sont pas aptes encore à l'emploi, mais au moins, on peut les impliquer. Fait que ce que ça fait, c'est que, d'abord, eux, ils retrouvent l'estime de s'impliquer. Fait que ils risquent de sortir de la rue. Ou mieux encore, se trouver une job, là, tu sais. Ça donne l'exemple aux autres aussi qui sont là, qui les voient. Puis quand tu dis à ton ado, ramasse ta chambre, là, il a sali moins après, là.
C'est ça.
Comprenez-vous ce que je veux dire?
Ben oui. Puis Éric, si je résume un peu notre conversation, puis je comprends aussi les gens aux alentours d'être un peu indisposés par des fois certains comportements, mais ce que tu nous dis dans le fond, c'est que lutter contre l'itinérance puis de gérer ces situations-là, ce sera jamais facile. Puis ce que tu fais, c'est un peu un appel à la tolérance puis à l'ouverture aujourd'hui là-dessus. Là.
Ouais, mais moi je les trouve pas intolérants par contre.
Okay.
Je trouve que au contraire, ils font bien de nommer les choses. Mm-hmm. Tu sais, quelqu'un qui vandaliserait ma vitrine, moi je lui dis appelez les policiers. Il faut pas tolérer les comportements inciviels. Il faut pas tolérer les accidents. Moi je trouve que ça a pas de bon sens ça. Il faut les policiers d'ailleurs, je travaille avec eux chaque jour. Il faut le dire quand t'as des comportements comme ça. Maintenant, faut savoir pourquoi ils font ça aussi. Fait qu'il faut travailler aussi en amont avec les gens. Désolé pour Paul Raphaël pour le mot en amont encore une fois, mais il y a vraiment, tu comprends-tu? Fait que moi, je parle pas d'intolérance, je parle peut-être de méconnaissance,
ouais,
par
c'est
exemple.
Ça, c'est t'sais, ça.
T'sais, quand t'as pas de courroie de transmission à qui te référer, quand tu connais pas ça, ça peut être tellement insécurisant. Là.
OK. Qu'est-ce qu'on peut dire en terminant aux gens là, qui se sont plaints de ces comportements-là? Est-ce que je sais pas, t'es-tu ouvert à des rencontres, à leur, je sais pas, une espèce de dialogue avec eux autres? Qu'est-ce que tu peux leur dire?
On travaille main dans la main, Jérôme, avec la ville, avec le CIUS, excuse-moi, je t'ai coupé. Avec la ville, le CIUS, tout ça. Puis on est en train de travailler un plan, on les a invités, on les présente. Ça sera pas parfait, mais moi, je pense que l'Aubrivière n'est pas le problème, mais est la solution, du moins en partie. Et on souhaite avoir toutes les suggestions possibles, puis on va s'influencer de tous les modèles possibles. Moi, je suis très ouvert à la critique, très ouvert à ce qu'on s'améliore. Je demande d'être patient, par contre, tu sais, parce que s'il y a des choses qui se mettent pas en... Il y a des choses qu'on va se mettre en place rapidement, là. Il manque des poubelles, il manque d'endroits pour fumer, les trottoirs sont même pas finis.
C'est ça.
Mais là, la médiation sociale, ça prend un petit peu plus de temps.
Éric, lâche pas, puis salutations à toute ton équipe. Lâchez pas, faites un travail essentiel à Québec, puis au plaisir de se reparler.
Merci beaucoup, merci aux auditeurs. Bonne journée.
Éric Boulay, le directeur général de l'Aubrivière, puis tu sais, je comprends les commerçants. T'sais, je lis les commentaires aussi dans les journaux de ce matin. Il y a Stéphane Leblon, là, le syndic dans ce secteur-là, qui dit on s'attendait pas à ça pantoute. La ville fait pas sa part. On savait que ça attirait une clientèle particulière. Il y a Mme Guimond aussi, directrice du centre de création Le Réacteur sur Saint-Valliès, qui dit bon, ça vient déféquer dans les installations de chauffage. Je comprends. Il y a rien de drôle, il y a rien d'agréable là-dedans. Je me mets tout à fait à leur place, mais en même temps... Comme dit le maire, les itinérants, on peut pas les mettre en dehors de la ville. T'sais, c'est une réalité qui touche Québec aussi. Puis Québec, tu sais, quand tu vas, mettons, dans des villes en Californie comme Los Angeles puis San Francisco, là, ça ramasse. Les autres, ça ramasse des itinérants de partout aux États-Unis. Là. T'en vois parce que le climat est plus favorable. Québec, nous autres, on ramasse, tu sais, beaucoup ce qui se passe sur le dans le Bas-Saint-Laurent, l'est du Québec aussi. Fait c'est un problème qui se réglera pas comme ça avec une baguette magique, là. Puis je suis très d'accord avec Éric. Malheureusement, c'est des choses qui vont arriver. sais, c'est pas acceptable que quelqu'un, par exemple, qu'un itinérant attaque quelqu'un, c'est, on comprend que c'est pas acceptable. Mm. Déféquer, puis bon, laisser traîner des canettes, ça vient un peu avec, malheureusement. Puis je comprends qu'il faut tout faire pour essayer d'éviter ça le plus possible, mais c'est ça la mixité dans un centre-ville. C'est difficile de trouver la solution à ça. Déjà que les policiers de Québec sont ultra débordés avec des questions de santé mentale. On le dit souvent, hein, une bonne partie de la journée des policiers de Québec, c'est de jouer le rôle de travailleur social. Pas évident. C'est vraiment pas évident.
Il y a des fois, je pense que le malaise que les gens ont, c'est pas tant relié justement à une crainte par rapport à la dangerosité de ces gens-là, mais c'est le malaise que ça suscite en nous. On est inconfortable avec ça, parce que souvent, dans notre quotidien, dans notre vie, on n'est pas exposé à ça.
Ouais.
Donc, il y a un inconfort. Donc, oui, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation en amont, comme disait Eric, mais aussi, il y a une espèce de sensibilisation, une espèce de pédagogie aussi à faire. Là. C'est une réalité, on peut pas la nier. Ces gens-là ont besoin aussi d'être aidés, d'être accompagnés et non pas être exclus, là.
Il y a quelqu'un qui nous écrit aussi, qui nous parle de la fameuse désince, la désinstitutionnalisation.
Ouais.
Okay? Ça fait une trentaine d'années qu'on est dans ce débat-là au Québec. Là. Ça a été un gros débat, surtout au début. Puis je comprends que ça fait partie du débat. Il fut une époque, je me souviens très bien de ça, ma mère travaillait là. Il fut une époque où Robert Giffard était plein. Je pense qu'il y avait 5 ou 6 000 personnes qui étaient là-dedans. Mais c'était ça la solution aussi, d'aller parquer des gens qui ont des problèmes de santé mentale puis de les... Des enfermés là, si tu veux, sans qu'il y ait beaucoup de possibilités de sortie puis de côtoyer la population générale. Sérieux, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident à trancher comme problème. Midi 31, vous écoutez Trudeau Landry, on vient.